Donc, un texte que nous avons lu tantôt, un texte qui est énigmatique, mais qui nous parle. Et j'ai appelé mon sermon « Dieu nous rencontre dans nos transitions ». Parce que notre vie est faite de transitions. Des voyages, des passages d'un point A à un point B. Beaucoup d'entre vous est en transition, en changement. Des fois, ça peut nous arriver dans la vie de sentir qu'on est rendu à destination, qu'on est bien installé et tranquille quelque part. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Des fois, on pense qu'on est arrivé, puis quelque chose arrive, puis il y a du changement. La vie humaine a toujours été transitoire comme ça. Et c'est ce qu'on ressent quand on pense à ce texte de Actes 20, versets 6 à 13. Ceux qui ont leur Bible peuvent tourner à cette page-là. Dans le livre des Actes, bien, ça se passe vers l'an 57. Et Paul et son équipe missionnaire sont en transit. En fait, ils sont en transit maritime. Et ils avaient été sur leur troisième voyage missionnaire. Et en Asie, puis en Grèce. Et puis, Paul décide que, OK, le voyage a été suffisamment long, on va retourner en Terre Sainte. Moi, je vais aller au festival religieux à Jérusalem. Et il fait un long voyage pour revisiter les églises en chemin vers Jérusalem. Ça, c'est le troisième voyage. Ça commence au chapitre 18 de Actes. Puis là, il est à veille d'embarquer sur un bateau, mais il apprend qu'il y a un complot. On dit des Juifs, il avait des ennemis parmi les Juifs, parmi les païens, mais là, c'est les Juifs qui ont un complot pour l'assassiner. Peut-être qu'ils se sont dit, on va être plusieurs sur le bateau avec Paul, pendant une nuit, on va le sortir de son lit, on va le garrocher dans l'océan ou dans la mer. On ne sait pas, mais en tout cas, il a appris qu'il y avait un complot. Il fait un long détour pour éviter le complot. Il revient par le chemin par lequel il est allé. Et puis, là, il fait un autre transit sur mer, un long détour. Et à un moment donné, il se retrouve dans cette ville portuaire qui s'appelle Troas, où notre histoire se passe. Il doit passer une semaine à Troas. C'est un délai en transit. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu un délai dans un voyage, qui devait être plus court, mais finalement, c'est plus long. Ça vous est-tu déjà arrivé? Mais c'est ça. Ma femme lève la main. Je pense que plusieurs ont vécu ça. Nous, on est allés aux funérailles de Carl Smith, le papa de Cheryl, en mars. Un voyage du retour qui devait prendre moins qu'un jour a pris presque 4 jours à cause de la grosse tempête de neige qui a frappé tout l'est du continent, le nord-est. Mais Dieu est venu nous rencontrer dans cette malchance, ce contretemps. On a vraiment passé du bon temps en famille et Dieu est venu nous parler par rapport aux choses vraiment importantes. Et c'est un peu ça, le sujet d'aujourd'hui ou ce qui va se dégager de notre histoire. Peut-être que pour vous, aujourd'hui, vous êtes peut-être pas en transit de voyage, mais peut-être vous êtes entre deux domiciles. Peut-être qu'il y en a qui se disent « je suis quelque part, mais en fait, j'attends de déménager ailleurs ». Peut-être que tu es entre deux emplois. Peut-être que tu es entre deux situations de santé. Peut-être que tu attends une opération. Peut-être que tu attends un bébé qui va naître dans ton foyer. Peut-être que tu t'occupes d'un parent qui est très malade et qui s'en vient vers la fin de ses jours. Il y a toutes sortes de situations, on va dire, de transit comme ça. Puis je pense aussi parmi nous, il y a beaucoup de personnes que votre présence à Montréal, vous vous sentez en transit parce que vous venez d'arriver au Canada, ou peut-être depuis quelques années ou quelques mois, que sais-je, et puis la forme de votre vie au Canada, c'est pas clair encore. La vie en transition, c'est souvent inconfortable, hein? C'est distrayant d'être en transit, d'être en transition, parce qu'on a de la misère à être focusé sur le moment présent. Hein, les étudiants, vous êtes un peu en transit aussi, parce que vous avez hâte de finir vos études et passer à la vraie vie. C'est stressant d'être en transit. Et puis, ce qui peut arriver, c'est qu'on se dit, comme je ne suis pas encore arrivé là où je devrais être, puis que je suis stressé, bien, je ne suis pas vraiment dans une place où je suis digne de l'attention de Dieu. On peut faire ce raisonnement, je suis moins digne que les autres de l'amour de Dieu. Bien, ce matin, j'aimerais vous amener un mot d'encouragement. C'est que Dieu ne nous abandonne pas, ne t'abandonne pas dans tes transitions, mais il vient te rencontrer dans ta transition. Notre Dieu ne nous abandonne pas dans nos transitions, mais il vient nous rencontrer dans nos transitions. Donc, j'aimerais faire ressortir ce mot d'encouragement de l'histoire qu'on a lue à travers trois dimensions de l'histoire. Premièrement, la ville de Troas elle-même, que je vais décrire. Ensuite, la vie du jeune homme Eutychus, qui est tombé par la fenêtre. On va parler un peu de lui. Puis troisièmement, on va voir que Dieu est très présent dans le texte, même s'il n'est pas mentionné. Est-ce que ça va? Me suivez-vous jusqu'à présent? Ça va? Oui? On va reprier encore. Seigneur, parle-nous par ta parole. Amen. Alors, la ville de Troas et son église, l'église de Dieu qui est à Troas, parlons-en un petit peu. Moi, je commence en disant, pauvre ville de Troas, pauvre ville de Troas. On voit par la carte qu'elle est une ville portuaire, une ville de transition entre le monde qui habite là puis le monde qui habite ici, la Grèce et l'Asie. C'est le port où le monde passe, hein? Et donc, c'est le transit. Et puis, quand on voit les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, on a comme l'impression que Troas est toujours négligé. Au deuxième voyage, Paul arrive à Troas, puis vous savez ce qui arrive à Troas? Il veut évangéliser, mais il reçoit une vision, puis c'est un Macédonien en vision, un gars qui vient d'ici, puis qui dit à Paul dans la vision, « Viens nous secourir, Paul! » Fait que Paul ne reste pas à Troas. Troas, c'est juste un transit, OK? C'est le port, c'est là où on prend le bateau. Puis, Troas, c'est comme la ville de passage. C'est le moyen pour arriver à la fin. Donc, Paul finit par mettre toute son énergie en Macédoine et ensuite en Grèce, et ainsi de suite. Et quand Paul va repasser par Troas beaucoup plus tard, dans le troisième voyage, l'histoire dont on parle, c'est parce qu'il est en route vers Jérusalem. Son but n'est pas Troas, Troas, c'est juste le transit. Et Paul a hâte d'arriver à Jérusalem, mais il est stocké, il est pris à Troas. Troas, pauvre Troas, t'es comme un bouche-trou. T'es comme juste une transition, mais il y a quelque chose de gros qui va arriver durant cette semaine de transit de Paul et de son équipe à Troas. Ils passent toute une semaine, puis finalement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent durant cette semaine-là, comme on a vu dans le texte. Ça finit avec un culte, une célébration qui dure toute la nuit. Donc, on voit que c'est le dimanche, c'est marqué que c'est le premier jour de la semaine. Ils se réunissent le soir et Ce qu'on remarque, c'est que la salle, en tout cas, on devine qu'elle est tellement remplie qu'il y a du monde qui doit s'asseoir dans les fenêtres, OK? Au moins une personne. Wow! Église de Troas, tu sembles ne pas avoir beaucoup de moyens. Tu as beaucoup de visiteurs en transit, des gens importants, mais qui sont là juste pour passer. Apparemment, tes rencontres sont mal planifiées parce qu'on dirait que l'horaire n'est pas prévu. Si quelqu'un décide que ça va durer toute la nuit, mais ça continue toute la nuit. Les réguliers, ils viennent comme ils peuvent, ils s'assoivent dans les fenêtres parce qu'il n'y a pas assez de place. Ils semblent être fatigués, ils s'endorment durant les cultes. Mais tu sais quoi, Troas? Dieu est à l'œuvre dans ton église. Dieu parle à ton peuple. On voit que Paul aussi, qui au départ ou avant d'arriver, ne voulait pas rester longtemps. Non seulement est-ce qu'il reste toute une semaine, il était peut-être forcé, mais le fait qu'il sait qu'il doit partir le lendemain, mais il va quand même à la réunion du soir, puis au lieu de partir tôt pour aller préparer son voyage, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne toute la nuit. Donc, en quelque part, on sent que Paul il a compris que l'Église de Troas est importante pour le cœur de Dieu. Même si, dans sa manière humaine de voir les choses, Troas, c'est juste le transit. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut agir dans cette ville de Troas. Puis je pense que nous, à l'Oasis, ça peut nous arriver de nous sentir comme un lieu de transition. Déjà, notre nom, Oasis, qui est un très beau nom, c'est comme un mot qui suggère la transition. Hein? Les voyageurs dans le désert, ils allaient à l'Oasis pour se ressourcer, peut-être pour se rafraîchir, puis après, ils continuaient leur voyage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on aura toujours des transitions à l'Oasis, mais Dieu est puissant ici. Dieu veut te rencontrer ici à l'Oasis ce matin et dans ta vie. Savais-tu que Dieu ne t'abandonne pas dans tes transitions et dans ta fragilité? Savais-tu qu'il veut te rencontrer dans tes transitions? Ici, je parle à notre Église. Il ne faut pas se décourager. Peut-être tu te sens fragile ou en transition ou dans une situation où tu ne connais pas l'avenir. Dieu veut te rencontrer, même ce matin. Parlons un petit peu de ce jeune homme, Eutychus. Il est appelé un jeune homme. Le mot grec, c'est néanias. Donc, ça peut vouloir dire même un ado. On ne sait pas exactement son âge, le niveau de sa jeunesse. Souvent, un néanias, c'est un serviteur, un jeune homme qui est serviteur. Ça peut vouloir dire un esclave. Donc, possiblement quelqu'un qui travaille très fort. Eutychus, tu es venu à la réunion d'église du dimanche soir. Et à l'époque, les églises mettaient les réunions, oui, le dimanche, mais souvent le soir ou très tôt le matin. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'esclaves qui étaient membres au début de l'Église chrétienne, du monde qui travaillait fort puis qui travaillait toute la journée. Donc, on mettait la réunion quand les gens étaient disponibles. Et ça, c'était le soir. Et Eutychus, semble-t-il, faisait partie de ces gens qui travaillaient en journée, c'était un néanias. Peut-être que toi, Eutychus, tu te sens en transition dans ta vie. Premièrement, tu es entre deux longues journées de travail. Tu viens à l'église, puis après tu dois rentrer chez ton maître. Peut-être aussi que tu rêves à t'affranchir de ton état de servitude. Hein, parce que c'était possible, à un moment donné, par une somme d'argent, d'être racheté et devenir un homme libre? Peut-être, là j'utilise mon imagination ici, peut-être devenir un vrai chrétien qui est libre de son horaire et qui a sa propre maison. Néanias est encore Eutychus est encore un Néanias et il se dit, je vais quand même m'accrocher. Je vais continuer à venir à l'église et il vient et probablement qu'il se dit, je vais profiter au maximum parce que Paul est ici, je vais écouter. Et puis, au début, il est super encouragé. Puis après, quoi? Il commence à se fatiguer. La salle est petite. Il y a beaucoup de monde. Il y a un manque d'oxygène. Et puis, c'est éclairé par beaucoup de chandelles, des torches. Ça bouffe l'oxygène. Il est fatigué. Il est tard. Il commence à cogner des clous. Peut-être qu'il y en a ce matin là qui commence à être fatigué de m'écouter. Vous n'êtes pas les seuls. Dès le début de l'Église, il y a du monde qui s'endormait durant les sermons. Pauvre Eutychus. Tout d'un coup, imaginez-le, il est assis dans la fenêtre. Il cogne des clous. À un moment donné, un drame terrible arrive. Il penche du mauvais côté dans son sommeil, qui l'avait complètement envahi, ce sommeil. Il tombe 3 étages. 3 étages. Imaginez comment ça a dû complètement casser la célébration de ce soir-là, l'intimité, la parole de Dieu, puis tout d'un coup, un accident terrible. Et pauvre Eutychus, c'est sur lui que ça tombe. Mais Eutychus, je veux te dire ce matin, quand un drame t'arrive, c'est pas parce que Dieu veut te punir. Dieu voit ton cœur, Eutychus. Il comprend ton état fragile. Il voit même tes efforts. Il voit ta vie transitoire. Il veut venir te rencontrer même dans ton malheur. Mes frères et sœurs, les accidents et les drames arrivent. Puis ils ne sont jamais les bienvenus. On a entendu parler d'au moins 3 attaques terroristes cette semaine dans différentes villes. Puis vous savez qu'il y a des églises aussi qui ont été attaquées cette année, même en plein culte. En Égypte en particulier, il y a toutes sortes de drames qui nous arrivent. Arménia qui se lève pour vivre une journée ordinaire, elle se retrouve à l'hôpital, à l'urgence. Elle ne le prévoyait pas. Dieu ne te punit pas, Eutychus, Arménia. Dieu veut venir te rencontrer. On se pose toujours la question, pourquoi? Pourquoi le malheur arrive? Et puis des fois, c'est soudain. On se demande, pourquoi ça arrive à ce moment-ci? Puis, Dieu garde son mystère. Jamais il nous donne la réponse totale à la question du mal ou du malheur. Jamais. Des fois, il nous donne juste assez pour qu'on persévère dans la foi, mais la providence de Dieu, la manière que fonctionne la nature, la manière que fonctionnent nos corps, il y a bien des mystères. Il y a bien des mystères, et puis ultimement, c'est Dieu qui est souverain. Mais Dieu, encore une fois, il peut nous parler même dans nos malheurs, il veut exprimer son amour et sa grâce, même dans le moment difficile. On le voit déjà dans la réaction de Paul. Hein? Paul ne dit pas, « Ah, ben s'il est tombé de la fenêtre, c'est qu'il ne fallait pas qu'il soit ici. C'est un pécheur, on remercie Dieu qui est mort. » Non, ça n'a pas rapport. Paul descend les escaliers. Son cœur est rempli d'émotions, de compassion. On voit qu'il le serre dans ses bras, le pauvre Eutychus, et il presse sa tête contre sa poitrine, et puis il va rassurer la communauté. Il va dire, Dieu m'a révélé, il n'est pas mort. Son âme est encore en lui. N'oublions pas en tout cas ce beau verset du psaume que je vous invite à mémoriser, psaume 34, verset 20. Puis ça a été un verset important pour moi quand j'ai été frappé par une voiture au mois de septembre. Beaucoup de malheurs atteignent le juste. Beaucoup de malheurs atteignent le juste ou la juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. On lit ensemble. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toutes sortes de malheurs, puis toutes sortes de formes de délivrance aussi. Dieu est là, n'est-ce pas, Alliancine? Amen. Oui. Puis Dieu, dans le texte, alors, il est trop loin dans le PowerPoint pour que je le reprojette, mais le nom de Dieu n'est même pas mentionné dans l'histoire. C'est juste le narrateur qui raconte. Mais on voit que Dieu était très présent. Premièrement, Dieu est très présent parce qu'il ramène Eutychus à la vie. C'est ça qu'on apprend à la fin de l'histoire. On n'a quasiment pas de détails. Il y a comme deux diagnostics qui sont exprimés dans l'histoire, mais ils sont contradictoires. Le narrateur, il dit « il est mort ». Mais Paul, il dit « il n'est pas mort ». Bon, OK, on ne comprend pas vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul ne dit pas « oh, j'entends que sa respiration est encore en lui ». Non, il dit « son âme est encore en lui ». Ça veut dire que Paul a reçu, enfin probablement, Paul a reçu une révélation spirituelle. C'est un diagnostic spirituel qu'il dit là. Ce n'est pas médical. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à Paul et qui a dit, je le garde en vie, ce jeune homme. Il est pas mort, je laisse son âme en lui, même si tous les autres voient qu'il est mort, mais en fait, il va revenir. Alors, ce qui est comme un peu intéressant dans ce... Le comportement de Paul est bizarre. Il est tellement convaincu de ce qui va arriver qu'il dit, ben, c'est correct, il va être correct, on va remonter, on va continuer la réunion. Et c'est ce qu'il fait. Et la réunion dure toute la nuit, puis c'est même pas clair si Eutychus est ramené en haut ou si des frères et sœurs l'ont amené dans une maison pour le soigner jusqu'à temps qu'il revienne de son coma. C'est pas clair, mais on voit que ce qui est important ici, Paul reçoit une conviction. Puis je pense que nous, quand on est une église où nous aimons prier pour les malades. Quand quelqu'un est malade, nous avons cette tradition, et beaucoup d'églises l'ont, de vraiment imposer les mains, faire l'onction d'huile, prier. Je crois qu'il faut aussi demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous montrer qu'est-ce qu'il veut faire. Ici, Paul ne prie pas automatiquement pour un malade, mais reçoit plutôt une conviction de ce que Dieu veut. Est-ce que vous voyez que les deux peuvent aller ensemble? Peut-être avant de demander la prière de guérison, prie. Demande à Dieu, « Dieu, qu'est-ce que tu veux par rapport à ma maladie? » Est-ce que tu veux me guérir tout de suite? Est-ce que tu veux glorifier ton nom par une guérison qui va arriver subitement à travers la prière des anciens? Peut-être que c'est autre chose. Peut-être que Dieu veut que tu restes malade quelques jours ou quelques semaines pour une raison précise. Dieu peut t'aider par le Saint-Esprit à réaliser sa pensée. Donc, il y a une certaine sagesse, autrement dit, à avoir dans tout ce ministère de prière pour les malades. Des fois, c'est vrai qu'on prie, puis c'est pas clair. On ne sait pas, bon, on va prier pour toi si tu es malade, mais je crois qu'il faut faire les deux. Est-ce que tout le monde me suit là-dessus? OK, donc, la prière pour les malades, quand on va le faire, allons-y dans la sérénité, dans l'ouverture à Dieu. Avant tout, Seigneur Jésus, je veux savoir ce que tu veux. Je sais que tu veux que j'aie la santé, mais y a-tu quelque chose, y a-tu un processus qu'il faut que je comprenne? Moi, ça m'est déjà arrivé d'être malade, puis finalement, Dieu ne voulait pas me guérir à l'église, il voulait me guérir chez mon médecin, parce qu'il voulait que je parle à mon médecin de mon témoignage. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, et voici un exemple où Dieu donne une révélation à Paul. On continue. L'église de Troas est un lieu de transition, mais Eutychus, lui, c'est un meuble, OK? Il va rester là, au moins pour un certain temps. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu donne à l'église de Troas le cadeau d'Eutychus guéri, un gars ressuscité des morts. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Hein? Donc, chacun d'entre nous, ici à l'Oasis, toute proportion gardée, peut-être. Y a-t-il quelqu'un ici qui est ressuscité d'entre les morts? Ça peut arriver. Et Francis, alléluia! C'est merveilleux! Oui, à certains niveaux, on est tous ressuscités d'entre les morts. Si on est né de nouveau, oui. Wow! Ah, mais toi, tu parles physiquement? D'accord, OK. Oui, alors là, vraiment, tu mérites que le laser aille sur toi. C'est un miraculé. Alors, mais je vais raccourcir. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Ne te lâche jamais de raconter à tes frères et sœurs et même au-delà qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Francis, donc on veut que tu racontes parce que les Eutychus, c'est comme des trophées. C'est des trophées qui nous rappellent que Dieu est vivant, que Dieu nous aime. Hein? Les Francis, les Eutychus et chacun d'entre vous et d'entre nous. Mais il y a aussi des traditions que Dieu laisse à Troas et dans des églises comme l'Oasis où ça lui permet aussi de nous parler. La prière pour les malades, on en a parlé, et comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment ça qui arrive dans ce texte. Il y a un malade qui est guéri, mais ça a l'air que c'est sans prière. C'est plus une révélation d'une guérison qui arrive. Mais nous avons ça, et nous avons la prière pour les malades, que nous pouvons faire. Oui? 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 Oui, on fait référence au pasteur qui, à une certaine époque, était à Rimouski, Mathurin Boignan. Québec, pardon. Oui. Et il est ressuscité d'entre les morts, carrément. Un peu comme Eutychus. Je n'ai pas les détails médicaux, mais vraiment, il avait été diagnostiqué mort. L'ambulancier, et il est revenu à la vie. Alors, oui. Alléluia. Oui, et Mathurin, je l'ai vu il y a une semaine. Il est encore vraiment très vivant. Puis, c'est le pasteur d'une autre église, mais c'est pas grave. Et oui, effectivement, c'est extraordinaire. Nous devons continuer à prier pour les malades. L'enseignement des apôtres est une autre chose qui demeure permanente pour les églises. Bon, à l'époque de Troas, le fait qu'un apôtre passait là, ils en profitaient. Donc, puis ils ont fait durer son enseignement toute la nuit. Et lui, il voulait vraiment les encourager. Nous, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui l'enseignement des apôtres? Où est-ce qu'on peut trouver l'enseignement des apôtres? Dans la Bible, oui. Et particulièrement dans le Nouveau Testament, ce sont les enseignements des apôtres et de leurs proches qui ont fait autorité dans tous les âges. C'est le même enseignement, en fait, puisque ça date de la même époque. Nous avons les repas communautaires. Dans ce texte, on voit que c'est un peu ambigu. Ils appellent ça la fraction du pain parce que le repas communautaire et la Sainte-Cène, c'était le même, ça se faisait ensemble au début de l'Église. C'était, on faisait un repas et à un moment donné, j'imagine le pasteur et les anciens faisaient la commémoration du Saint Repas à l'intérieur même du repas communautaire. Il faudrait qu'on essaye ça une fois. En tout cas, on a un repas communautaire qui s'en vient le 25 juin, notre pique-nique au parc. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour l'amour de Dieu de se révéler entre nous quand on mange ensemble? Donc, je vous invite à venir avec votre pique-nique le 25 juin. On va aller au parc, on va casser la croûte ensemble. Et il y a aussi le repas du Seigneur. Et ça, nous allons le célébrer ce matin. C'est quelque chose que le Seigneur nous a donné pour célébrer régulièrement. Et c'est une occasion, écoutez bien, c'est une occasion. À chaque fois qu'on le célèbre ensemble, le Saint-Esprit te parle. C'est Dieu qui te parle par le Saint-Esprit qui te dit, « Je t'aime. Je suis mort pour toi. Tu es importante. Tu n'es pas juste un bouche-trou. Peut-être que les humains te traitent comme un bouche-trou, comme un moyen pour arriver à leur fin. Mais pour moi, si tu étais la seule personne sur la terre, j'aurais envoyé Jésus quand même pour mourir juste pour toi. » OK? Et donc, dans ce repas, Jésus nous rappelle sa grâce. Et donc, participons, laissons le Saint-Esprit nous parler. On va conclure en rappelant donc cet encouragement qui vient de ce drôle de texte du gars qui tombe par la fenêtre, Eutychus. Qui se souvient d'Eutychus? En fait, moi, je ne sais même pas comment prononcer son nom. On en parle si peu. Je ne sais pas si c'est Eutychus ou Eutychus. Qui que tu sois, tu es important pour Dieu. Et Dieu ne t'abandonne pas dans ta précarité, dans ta vie de transition. Il vient te rencontrer. Donc, et pour nous aussi, Dieu ne nous abandonne pas dans nos transitions. Il vient nous rencontrer dans nos transitions. Amen. Amen. Est-ce que tu es importante pour Dieu ce matin? Est-ce que tu es important pour Dieu? Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que tu es juste un instrument pour quelque chose de plus important? Ou est-ce que tu es important en toi-même pour Dieu? Tu es important pour Dieu? OK. D'accord, je crois que vous m'avez entendu. Et j'ai trouvé cette semaine, ça c'est vraiment la fin, ce vieux cantique qui parle de notre vie instable, notre vie de changement. On est un peu comme des matelots dans un bateau. Puis l'amour de Dieu, c'est comme le phare qui nous guide. C'est ça qui est stable. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ces paroles-là? Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit. L'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Y en a-tu qui connaissent la mélodie? On essaye-tu? Ceux qui connaissent, vous allez voir, on va le chanter deux fois et la deuxième fois, tout le monde peut se joindre. Ceux qui connaissent peuvent. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Encore une fois, tout le monde ensemble. Comme un phare sur la plage, perce l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Amen.